Ah oui, il y a le premier, il y a que ça. Et le second, ça n'existe pas.
Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu.
Go ahead.
Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Make my day.
Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous?
Le second, c'est un con.
Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 217 et de l'autre côté du poste, j'ai le vacancier MacLeod, Stéphane MacLeod, alias Vader Herzog. Comment tu vas?
Oui, c'était. Bah écoute, ça va bien, effectivement. Voilà, paradoxe temporel. Normalement, à l'heure où vous écoutez cet épisode, je serais perdu dans les Highlands.
Savais-tu que Werner Herzog, le vrai, a sorti un livre récemment, enfin il est déjà sorti depuis un certain temps aux États-Unis, mais ou dans certains autres pays, mais en tout cas il est sorti en version française il n'y a pas longtemps, c'est ses mémoires.
Ouais, bah tout à fait, bah oui, c'est comme ça, hein. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à ce stade où on va progressivement avoir les mémoires de Werner Herzog.
Mais... Tu n'y es pour rien, t'es d'accord?
Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce ne sont pas mes mémoires, donc vous serez peut-être un petit peu déçus.
C'est un usurpateur.
Voilà, exactement.
Et moi, j'imagine... Ah, it's my memories, it's not Stéphane Boulet.
Oui, c'est à lire, évidemment, avec l'accent en tête.
Moi, je peux pas lire, je peux pas regarder. Et tu sais quoi? Et j'ai dû montrer l'extrait 8000 fois à Amandine, mais je lui ai remontré encore il n'y a pas si longtemps le moment où il dit... Jamais je ne parlais français. Tu connais cet extrait?
Oui, je le connais.
Ah, il est extraordinaire. Je vous invite à l'écouter. Regardez sur YouTube. Arrêtez ce podcast. Regardez Werner Herzog French. Et il explique pourquoi il ne parlera jamais français. C'est un gros trauma. Et tu sais quoi? Pour que Werner Herzog soit traumatisé, il faut quand même.
Il en faut.
Il a quand même supporté. Il a supporté. Tu as vu déjà les extraits où tu vois le. Klaus Kinski qui s'énerve tout seul.
Oui, bah oui, bah c'est effectivement connu, reconnu. Et,
ouais. Enfin, il s'énerve tout seul.
Voilà, il s'énerve. Klaus Kinski. Il le menace, et enfin, voilà, on en vient aux mains. Enfin, c'est...
On n'a jamais, en tant que collaborateur, toi et moi, on n'a jamais eu ça.
Non.
Le seul moment où c'est un peu, j'ai dit, hey, vas-y. Ralentis un peu, c'est quand tu marchais trop vite en montagne, peut-être, et que j'arrivais pas à suivre. C'est le seul moment où je dis, hey, Stéphane, wow, relax. Alors, comment c'est, dis-moi, l'Écosse?
Bah écoute, c'est très bien, j'espère.
Oui. Alors, paradoxe temporel, on enregistre alors que tu vas partir, mais tu seras peut-être rentré d'ici là.
Voilà, ouais, on sait pas trop exactement, voilà. J'espère juste que le temps sera un peu sympathique avec nous. C'est un peu le risque avec l'Écosse, mais...
Et c'est moi qui dois m'excuser, parce que, en fait, j'ai pas été assez rapide pour monter les épisodes. Parce que j'ai une timeline idéale dans ma tête, mais en fait, j'ai une timeline différente qui s'est déroulée, puisque j'étais très malade, en fait. Tout ce mois durant, je suis rentré du Japon, et j'étais très malade pendant tout un mois... Et là, on est vraiment dans les premières journées où j'arrive à peu près à prononcer quelques phrases, quoi.
À sortir la tête de l'eau.
Ouais, c'était vraiment très, très dur, quoi. Et voilà. Donc, je suis ravi de te retrouver, Stéphane. J'ai l'impression que c'est déjà de la nostalgie de te parler.
Quelque part, c'est ça, ouais. Quelque part.
Et je sais, parce que j'ai pas encore monté l'épisode précédent. C'est ça, le paradoxe temporel. C'est dans le précédent, on disait, on n'a pas encore de gouvernement.
Oui, et là, on en a un, a priori.
Allez, alors...
Alors, on enregistre, on en a un.
Alors, Stéphane, donne-moi ton avis, parce qu'on n'en a pas reparlé depuis.
C'est vrai.
On a fait comme si de rien n'était. Le seul truc qu'on s'est dit, c'est « Ah, Aurore Berger n'y est plus ». C'est un peu une petite victoire.
Voilà, faut vraiment chercher les victoires là où elles sont. Hein. C'est...
Oui, et nous, on a gardé Rachida Dati.
Eh oui.
Mais qu'est-ce que tu penses de ton nouveau ministre de tutelle?
J'ai déjà oublié son nom, mais je pense que ses compétences développées dans la gestion du personnel de maison en Cochinchine va vraiment nous aider pour le ministère de l'Éducation nationale. C'est vraiment ça dont on avait besoin, quoi.
Ouais, c'est un peu la bonne personne au bon moment.
Complètement.
Celui qui va sauver la maison.
C'est ça. La maison qui brûle, hein, comme le disait Jacques Chirac.
Alors la maison brûle, mais non pas ton côté de l'éducation, parce que toi tout est maîtrisé.
Ah, oh bah complètement. Alors là, c'est. Oui, tout est au clair. Voilà. Mais étrangement, voilà, encore une fois, c'était une des meilleures entrées, une des entrées les plus smooth qu'on ait jamais passées. Donc, tu vois, pas de ministre, pas de problème, quoi.
Mais pas de boucle WhatsApp de parents aussi.
C'est ça.
C'est un truc que je m'interdis maintenant. Tu sais, il y a les gens, ils disent, ouais, j'arrête Internet le week-end ou j'arrête Internet en dehors des heures de boulot. Tu sais, c'est comme ça. Moi, je m'interdis WhatsApp des parents d'élèves en dehors des heures. Parce que vraiment, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
Les choix, ils s'engrènent, mais tu sais quoi? Genre, il y en a un qui dit quelque chose et c'est parti pour 10 autres personnes qui. Mais genre, et il n'y a pas plus flippant qu'un parent investi, mais j'ai l'impression qu'ils attaquent comme des poulets sans tête et tout. Et t'as envie de leur dire chill down, les gars, chill down. On va y arriver sans stresser. Mais ouais. Tu me connais, moi, j'ai pas envie de stresser. Mais ouais, tous ces gens qui s'agitent pour rien, c'est très très flippant. Stéphane.
Oui.
On n'est pas là pour parler politique.
Non, jamais.
On n'est pas là pour parler du reste. On n'est pas là.
Non, on n'est même pas là pour parler, en fait. À partir de maintenant, c'est très mal. Vous allez devoir 2 heures de silence.
Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça marche, Super Ciné Battle?
Super Ciné Battle, donc c'est le classement ultime du cinéma pour avoir la chance d'avoir votre liste peut-être apparaître dans le marbre. Il faut nous l'envoyer à supercinébattle pardon @gmail.com badbuzz supercinébadbuzz supercinébattle@gmail.com. 3 films par liste avec une petite thématique, c'est toujours mieux pour se distinguer de la masse. Si votre liste est choisie par la main innocente de Daniel, les films seront gravés à jamais dans le marbre et vous saurez, voilà, quelle est leur valeur.
Elle est pas si innocente que ça.
tu veux dire que cette main peut ployer sous certaines ingérences, c'est ça que tu dis?
Oui, il y a quand même quelque chose qui peut se passer, de l'ordre de voilà, ouais, il y a des choses qui peuvent se passer, parfois être influencé, tu vois.
Genre demain, il y a Bruno Retailleau qui envoie une liste et tu dis, bah, je la choisis. Parce que c'est Bruno.
Non, alors tu sais quoi, liste et Bruno Retailleau, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'aime pas ça. J'aime pas cette idée.
Vaut mieux pas être dessus, à mon avis. L'histoire nous a appris que sur la liste à l'art de Bruno Retailleau, vaut même pas être dessus.
Tu sais quoi, mais si ton nom est sur une pétition, Bruno Retailleau de la voix, il va faire, mais on va voir ces noms-là.
C'est ça. Je pense que voilà, c'est pas prudent.
Tu vois, j'ai retenu personne à part lui.
Bah, c'est normal. C'est un peu, voilà, j'ai envie de dire, le petit caca sur le gâteau, quoi, tu vois, c'est.
Tu veux savoir un truc, on était au Japon, donc, et avec Puyo, et à peu près tous les jours, on se disait. Enfin, moi, je me levais et je me disais. Alors que Puyo, tu sais, il est endormi, il a la tête dans le cul, il va aux toilettes et tout, et moi, je lui dis, salut, on s'est fait voler. Tu sais, en plus, je suis matinal, moi. Donc, je suis déjà la patate, j'ai déjà réveillé depuis 3 heures. Enfin, même, j'ai pas dormi en général. Et j'y fais, on s'est fait voler. Tu sais comment je peux être quand je suis obsessif.
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Stéphane,
oui.
Est-ce que ça serait pas le bon moment pour rappeler ce qu'on a fait à l'épisode précédent?
Eh bien, à l'épisode précédent, c'était un épisode
très français.
Très français. Et même mieux que français, c'était un épisode très Vincent Pérez.
C'est vrai, beaucoup de Vincent Pérez.
Beaucoup de Vincent Pérez à notre corps défendant. Finalement, encore une fois, c'est le marbre hein, qui a fait qu'on avait tellement de Vincent Pérez dans l'eau, puisque voilà, on a quand même eu Fanfan, qui arrivait pas très très haut quand même. Je vois ça, qui s'est maintenu au-dessus de la ligne verte, mais qui est arrivé en dessous de Piège en eau trouble. Mmh. Pas très loin au-dessus, on a le Loup-garou de Paris, à la 306e place. Vraiment, vraiment pas très très bon.
Non, c'est pas le bon des deux.
Voilà, c'est pas le bon, voilà, c'est effectivement, c'est l'espèce de suite indigne du Loup-garou de Londres.
Et on a eu le bossu aussi.
On a eu le bossu à la 211e place, effectivement, et la plus forte entrée, c'est La Reine Margot, 145e place.
Un film bizarrement ambitieux.
Un film, voilà, un film clivant.
Ah oui, alors, oui, toi t'es plutôt pour.
Moi je suis plutôt pour, ouais.
Moi je suis plutôt, toi t'es plutôt oui mais, moi j'ai plutôt non mais.
C'est ça. C'est ouais. Ça, ouais. C'est un peu ça.
Voilà, et c'est pour ça qu'il se retrouve un peu pas en milieu de classement.
Mais voilà, qu'il a une place.
Si, tu sais quoi, c'est un peu le milieu de classement. Voilà. De toute manière, il va que descendre. Hein, de toute manière.
Ah bah tu sais pas, hein, tout dépend si tu nous ressens encore des films du calibre de Fanfan. En tout cas, il va pas remonter, c'est sûr.
Ah, tu serais curieux. Et j'en profite, puisque c'est le début de l'épisode et que j'y pense. Patreon.com/RPU. Ça nous aide à financer ces podcasts et ça va nous aider à produire l'émission live qu'on veut faire d'After Eight, puisque ça sera la première fois qu'on veut faire After Eight en live en fin d'année, quelque part dans Paris, parce que il vient en France quand même. Donc c'est l'idée, ça serait de profiter du fait qu'il soit en France pour faire une version live.
Mais si je peux me permettre, dis-moi. Si vous donnez suffisamment au RPU, on peut faire cette version live à Los Angeles, tu vois.
Ah ouais, mais c'est vrai, tu sais quoi, c'est vrai, on pourrait faire version live, mais je sais pas si on pourrait remplir une salle avec le public américain.
Bah bien sûr que si, c'est pas compliqué, tu passes une petite annonce, tu leur dis que c'est une audition pour une nouvelle série télé, et t'es sûr que tu vas remplir la salle en 2 minutes, quoi.
Ah bah oui, en mentant, très bonne idée.
Bah oui.
Franchement, t'es très bon, hein.
Moi je m'aligne, hein, tu sais, voilà, avec les tendances actuelles.
Ouais, bien sûr. Stéphane, on va passer à la première liste.
Ben, passons à la première liste.
Et c'est une liste qui nous est envoyée par Antoine, un très fidèle marbreur, et qui nous envoie plein de listes et toutes pertinentes.
Eh ben, merci Antoine pour toutes tes listes pertinentes, et on ne va en passer qu'une seule.
On va en passer qu'une seule, mais vraiment, il en a plein, plein de bien. Et le premier film de sa liste, c'est Usurpation d'identité, mais c'est pas vraiment un thriller.
D'accord, ok.
Ok. C'est des films sur les usurpations d'identité. Donc, on va parler de toi.
Au début, je pensais que c'était le titre, tu vois, Usurpation d'identité, mais c'est pas vraiment un thriller. Je trouvais ça bizarre comme titre de film.
Évidemment, c'est un peu bizarre. Et le premier film de cette liste, c'est un film de 94, réalisé par Michel Blanc, qui s'appelle Grosse Fatigue.
Ah, bah oui.
Ouais, c'est pour ça que je passe.
Bah oui, évidemment.
Un film qui n'a pas été demandé, alors que l'aura de Grosse Fatigue est assez... je trouve importante dans le cinéma.
Bah, alors déjà effectivement, si on en parle, c'est pour rendre hommage à Michel Blanc, voilà, l'auteur et aussi comédien principal de ce film, voilà, qui nous a quitté il y a quelques jours maintenant. Et qui restera quand même un acteur qui nous aura marqué malgré tout, hein. On fait partie de cette génération où on voyait quand même beaucoup de films de Michel Blanc, donc c'est une certaine part de nous-mêmes qui est partie avec lui. En plus, ça avait l'air d'être une personne assez bien sous tout rapport dans le privé, donc
il avait l'air intraitable sur le travail.
Ouais.
Mais il a une réputation aussi d'être un gentleman.
Et tout
aussi
à fait, ouais.
D'être très très secret sur sa vie privée, que une chose qu'on peut que respecter.
Tout à fait, tout à fait.
Et c'est le premier film dans lequel tous les membres du Splendid se retrouvent, mais se retrouvent sous leur vrai nom, car la particularité de Grosse Fatigue, c'est que tout le monde joue son propre rôle.
Voilà, c'est que tout le monde joue son propre rôle, ou presque.
Sauf peut-être Michel Blanc.
Sauf, voilà, c'est ce que je veux dire, ou presque, sauf Michel Blanc, effectivement, puisque voilà l'embrouglio du film est que Michel Blanc, donc on découvre Michel Blanc en tant que Michel Blanc, se retrouve accusé d'agression sexuelle contre diverses actrices, dont Josiane Balasco, Charlotte Gainsbourg. On le reproche d'avoir été un connard absolu contre lors du dernier festival de Cannes, où il s'est comporté comme un connard avec tout le monde. Il se retrouve endetté, je crois.
Et il a fait aussi des ménages débiles, genre dans les supermarchés,
ouais, c'est ça, voilà.
Dans les trucs comme ça, genre des trucs que Michel Blanc n'aurait pas fait, tu vois.
Voilà, effectivement, et il se retrouve, enfin, voilà. Et donc, du coup, les témoignages sont... commence à tomber de partout, des images circulent. Mais le problème, c'est que Michel Blanc sait qu'il a rien fait en fait. Il sait bien ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait. Et donc du coup, comme ça commence à lui attirer de plus en plus d'ennuis, il décide d'enquêter pour essayer de découvrir la vérité de ce qui se passe derrière. Et du coup, il va enquêter avec une partenaire qui n'est autre que Carole Bouquet.
Exactement, et Carole Bouquet va s'occuper de lui en disant « Bon, écoute, t'as une grosse fatigue, je vais m'occuper de toi. »
Voilà, c'est ça, d'où le titre, quoi.
Et s'ensuit pas la mal de quiproquos. Jusqu'où on peut révéler ?
On peut révéler quand même le nœud principal, c'est-à-dire qu'effectivement, dont tu te doutes, en tout cas, c'est que la personne qui a perpétré les crimes odieux dont est accusé Michel Blanc, n'est pas véritablement Michel Blanc.
Voilà, ça, voilà. Et du coup, s'ensuit une espèce de... C'est une course-poursuite, mais il n'y a pas de course. Un peu abracadabrantesque contre qu'est-ce qui se passe, pourquoi sa vie va à l'eau, quoi.
Voilà, c'est ça. Et voilà, donc après, c'est pareil, parce que il y a tout un truc, mais globalement, voilà, le nœud du film... En fait, ce dont parle le film, c'est qu'est-ce que ça fait d'être Michel Blanc, dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire d'être Michel Blanc perçu à travers ses rôles, donc généralement des rôles de loser, en fait. Des rôles de loser. Toi et moi, on sait bien qu'on a un peu le même problème, on peut pas miser tout sur notre physique. Voilà, surtout toi, la fameuse réplique qui balance à Gérard Jugnot. Mais c'est, voilà, le film s'empare de cette histoire d'usurpation d'identité, puisque c'est ça le fond. Alors la légende veut qu'en fait l'idée lui soit venue parce que Gérard Jugnot aurait été véritablement victime d'une usurpation d'identité un jour.
Ouais.
Voilà, pas dans les mêmes proportions. Attention.
Pas dans les mêmes proportions, mais suffisamment pour que ça se règle devant les tribunaux.
Voilà, suffisamment pour que qu'il y ait des vraies conséquences. Et donc du coup, voilà, Michel Blanc s'empare de ça et lui porte ça effectivement à un niveau de méta Michel Blanc, en fait.
C'est un grand film méta, hein, on peut le dire.
Ouais, c'est un film méta Michel Blanc, qui, encore une fois, voilà, l'idée c'est qui est Michel Blanc derrière Jean-Claude Duss quelque part, en fait, puisque c'est ça, en fait, puisque tout le nœud du film repose autour de la perception qu'ont les gens de Michel Blanc en fonction, à cause ou en fonction de ses rôles, quoi.
En sachant que tout le monde joue son propre rôle. Et justement, c'est ça qui est particulier, c'est que les acteurs qui jouent, qui sont vraiment des acteurs ici, sont en général devenus des gens plutôt connus, en fait.
Oui,
c'est,
oui.
Par exemple, il y a Bernard Farcy qui joue dedans, tu vois, c'est des gens que tu préfères. Ah, je les reconnais, ou alors François Morel, tu vois, c'est genre, ah oui, ok, je vois qui est François Morel. Est-ce que ça serait marrant, avant que tu on dise est-ce qu'on aime ou pas, juste la liste des acteurs, juste pour vous donner une idée un peu de tous les gens. J'ai la liste devant moi. Alors, il y a Michel Blanc, évidemment, il y a Carole Bouquet, il y a Philippe Noiret, il y a Josiane Balasco, il y a Marianne Chazelle, Christian Clavier.
Charlotte Gainsbourg. Thierry Lhermitte,
Guillaume Durand, Estelle Lefébure, David Hallyday, Dominique Lavanant, évidemment, Gérard Jugnot, bien évidemment.
Régine.
Mathilde Amay, qui je crois a été agressée en plus par le faux Michel Blanc.
Ouais, tout à fait, elle est agressée au début du film. Ouais.
Roman Polanski, attention, c'est un peu fini.
C'est les années 90, bon.
Oui, voilà.
Bon. On était au courant, mais c'était pas encore grave. Tu vois,
Dominique Besnéard, c'est un peu vieux aussi.
Ouais, oh, putain, ouais, c'est vrai.
Oui, écoute, c'est leur époque. Hein. Gilles Jacob, et après, voilà, c'est d'autres comédiens, mais voilà, grosso modo, c'est eux qui jouent leur propre rôle à chaque fois.
Voilà, c'est une capsule, de toute façon, c'est vraiment une capsule du cinéma français de ces années-là, voilà, un peu plus, parce qu'effectivement, on a Gilles Jacob lui-même qui vient là. Gilles Jacob, pour ceux qui ne remettent pas forcément, c'est pas le... C'est pas un acteur en tant que tel, hein, mais c'est voilà, un personnage incontournable du Festival de Cannes, puisqu'il a été, il a été président du Festival de Cannes pendant de nombreuses années, et que voilà, il a quand même du coup eu son poids dans le paysage cinématographique français, la façon dont il a été façonné, quoi.
C'est un film qui a été présenté, qui a eu son succès à Cannes.
À Cannes, ouais, tout à fait. Alors, moi, je m'en souviens pour ça, en fait, en réalité. Ouais. Enfin, au-delà du film lui-même, c'est qu'effectivement, c'est un film qui avait fait pas mal parler de lui à Cannes, et de façon très, très méta, puisque, justement, c'était un film de Michel Blanc. Enfin, il y avait vraiment... quand tu regardes le film, en fait, et ce que dit le film, il y a vraiment un côté assez... amusant de voir que justement une partie de l'événement du film, c'est le fait que ce soit Michel Blanc lui-même qui puisse monter les marches avec ce film-là, quoi.
Et il a eu le prix du cinéma et le grand prix de la technique, qui est pour devine pour qui. C'est le grand prix de la technique pour les effets spéciaux de Pitoff.
Ah oui, 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 bah oui. Oui.
C'était Pitoff, j'ignorais complètement. Voilà, bravo à lui.
Bravo à lui. Voilà, c'était effectivement sa carrière dans les effets spéciaux. Ouais,
il n'a pas gagné le Grand Prix, bien sûr, mais cette année-là, je tiens à dire quand même qu'il y avait un peu de la compétition. Il y avait Vivre de Zhang Yimou, il y avait La Reine Margot, dont on a parlé dans l'épisode, l'épisode précédent. Il y avait... je suis en train de regarder, il y avait Soleil trompeur de Michael Koff. Je regarde un peu les trucs qui me parlent, tu vois, parce que sinon, bien sûr, je peux te dire Les gens de la rizière de Ritipan, un film cambodgien. Je suis désolé, je ne l'ai pas vu. Les leçons... Et surtout 94, il y a eu un film qui a un peu marqué son époque.
Vaguement.
Il y a eu Pulp Fiction.
J'ai eu vaguement Pulp Fiction en compétition cette année-là.
Du coup, c'est facile de se souvenir que c'était Clint Eastwood qui était le président du jury.
Du jury, voilà, tout à fait.
Avec Catherine Deneuve.
Catherine Deneuve. Voilà. Effectivement.
C'est un bon moyen technique. Genre, 94, mais.
C'est ça.
Et Lalo était au jury. Lalo Schifrin était.
Lalo Schifrin, ouais, c'est ouais. Ça. Ouais.
Je pense que c'était une bonne édition. Tu vois, genre le mec est allé à cette édition-là, il s'est dit ah ouais, je pense que je suis pas allé pour rien.
C'était du solide, effectivement.
Ouais. Et tu sais quoi, prix du scénario, je l'entends. Franchement, je trouve que c'est un film vraiment. Alors là, on rentre dans nos opinions, mais enfin après, on est toujours dans nos opinions. Mais
non, on est toujours dans la vérité absolue le reste du temps. Hein, voilà. Ne l'oublions pas.
Mais je trouve que c'est un film vraiment très malin.
De grosse fatigue, tu veux dire?
Ouais.
Oui.
Et je trouve que le là, on n'a pas révélé ni le premier twist, mais la fin est super.
Ouais, en fait, c'est marrant parce que du coup, en fait, Michel Blanc, en tant que metteur en scène, donc il aura finalement réalisé que trois films, mais son film d'avant, c'était Marche à l'ombre, qui du coup était en plein dans quelque part dans la Michel Blanc exploitation, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui se passe si Jean-Claude Duss était en plus SDF, en gros c'est un peu le principe de Marche à l'ombre, et là il revient en fait dessus avec en relecture complètement différente, et à chaque fois je trouve que qu'il y a quand même un truc assez intéressant dans la façon dont il arrive à parler de tout ça, et en faisant une espèce de comédie, mais qui est quand même assez grinçante malgré tout, et qui voilà qui prend le sujet, l'exploite vraiment 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 bien, et arrive à pas être trop trop complaisant avec lui-même non plus. Enfin, il y a vraiment un truc de regard de sincérité, je trouve, quand même, sur sa carrière, sur qui il est ou qui il pourrait être, qui, je trouve, se transpire dans le film et fait que ça fonctionne, quoi.
Exact. Et donc là, je regardais, il a réalisé donc 5 films en tout.
Ah, 5, ah, bah, tu vois, moi, j'étais resté sur 3.
Grosse fatigue, Mauvaise passe, Embrasser qui voudrait, et Voyez,
mais oui.
Et ouais. Voyez comment on danse.
Alors, vous voyez, commandant, j'ai pas vu du tout. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié Embrasser qui voudrait, tout à fait.
Et qu'est-ce que tu penses du film? Parce que j'ai dit mon opinion, je trouvais ça plutôt malin, mais toi?
Moi aussi, j'aime bien. C'est un film que j'aime bien, voilà, que je trouve assez réussi. Et puis, encore une fois, voilà, assez sincère, on va dire, dans son regard.
Je trouve qu'il est joué avec assez de naturel, en fait. C'est vraiment, moi, c'est la prestation des comédiens. Genre, ils jouent vraiment à peu de choses près ce que tu imagines ce qu'ils seront.
Oui, et puis.
C'est-à-dire, surtout les Junio, Balasco.
Balasco, ouais, tout à fait, ouais. Et oui, et en même temps, justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est le propos du film, en fait. C'est, voilà, les comédiens, leur rôle, quelle est la frontière. Et c'est amusant que, justement, dans l'écriture et dans la direction d'acteurs, Michel Blanc vraiment exploite cette espèce de flou qu'il peut y avoir, parce que finalement ces gens-là on ne les connaît pas, et en même temps on a l'impression de les avoir toujours connus, tu vois. Et il joue vraiment là-dessus à fond les ballons, et pour lui-même et pour les autres aussi,
et surtout avec ce truc de, et ça c'est un truc qui existe aussi, hein, cette appréhension de est-ce qu'ils sont sympas ou pas dans la vraie vie.
Oui, tout à fait,
parce que Gérard Jugnot, tu sais, en plus moi je peux te le dire, à l'Alpe d'Huez tout le monde me dit ah le pire c'est Gérard Jugnot, genre tout le monde me dit il est pas sympa. Mais tout le monde, genre, parce que je parle aux volontaires, je parle aux gens, aux organisateurs et tout, surtout plutôt aux gens qui font les portes en bas, tu vois, et qui se caillent dans le froid, et comme toi tu te cailles parfois dans le froid avec eux, tu as quand même t'as le temps de parler, ils me disent Jugnot c'est le pire. mais ouais, il y a ce truc qui se joue avec le fait que est-ce qu'ils sont vraiment sympas dans la vraie vie ou pas ? Est-ce qu'ils se prennent pas pour de la merde ou pas ? Et il y a tout ce truc, hein. Il y a vraiment le film se joue de ça, quoi. Le film se joue de la frontière entre la réalité et l'alter-réalité, j'ai envie de te dire.
L'alter-réalité. Voilà. Et quelque part, c'est un peu, enfin, pas sur la même modalité, mais je trouve en termes de regard sur soi et de mise en abîme de soi-même et de sa carrière, je trouve qu'il y a quelque chose, que une certaine filiation avec ce que va faire Eric Judor par la suite, en fait, ou évidemment avec Platane, mais même par la suite, où effectivement peut-être c'est le côté chauve des deux qui fait la connexion, mais ce côté, justement, cette mise en abîme de soi-même et de son personnage public, avec cette question, mais est-ce qu'au fond je serais pas un connard moi aussi, comme les autres, quoi. Et voilà, et je trouve ça intéressant, cette filiation, et c'est la façon dont, alors évidemment la façon dont Michel Blanc va l'exploiter là, c'est moins glauque que ce que fait quelque part Eric Judor, mais c'est justement c'est un peu doux amer quand même, voilà, et je trouve que c'est pour ça aussi que ça fonctionne aussi bien, quoi.
Ce film, il y a cette manière, c'est ce moment où le monologue de Noiret, où Noiret dit ça sent le sapin le cinéma français, c'est genre tu te dis que bon, c'est bon, voilà, c'est pas hasard. Je tiens à dire aussi que si vous voulez compléter votre cette écoute, parce que nous on parle de ressenti et tout ça, mais Jérôme Lachasse avait fait un bon article dessus, assez long, à l'occasion d'une de ses, il parlait des comédies, et donc Grosse Fatigue et reste une comédie, et il en avait fait un très très bon article où j'avais appris qu'en fait Deneuve devait jouer dans le film.
D'accord.
Et Deneuve a été approché, et Deneuve elle a fait non, je n'y crois pas. Je pense que ça va faire chier les gens de nous voir dans nos propres rôles.
C'est un point de vue, après tout, hein, pourquoi pas.
Et tu veux que je te dise un truc, Carole Bouquet, super meuf de comédie, en fait. On l'a sous-estimée pendant des années, mais vraiment, c'est une très très bonne comédienne pour faire rire, en fait. Elle est vraiment, elle a pas eu de bol pour ses choix de films. C'est comme les choix de comédie de Isabelle Huppert, tu vois, ça a jamais vraiment été bon, mais tu vois, mais je trouve qu'elle a vraiment un truc,
genre le pianiste, par exemple, la pianiste.
Non, mais tu sais quoi, qu'est-ce qu'elle a fait, elle a pas fait le truc où Benoît Poulvord, des déménageurs ou un truc comme ça,
ouais, enfin, non, mais bizarrement c'est pas ça que tu retiens, en fait, tu vois, c'est étrange, hein.
Ouais. Et bah voilà, scénario, d'après une idée de Bertrand Bellier, faut dire ce qui est. Scénario de Balasco, Michel Blanc,
ouais,
et
Jacques
Audiard,
effectivement. Ouais.
Et Audiard. Bon, bah écoute, on va le classer en sachant
que
moi
j'aime bien aussi, ouais, Grosse Fatigue.
Je pense que c'est vraiment une comédie un peu pointue, parce que c'est pointu, hein, quand même. Je trouve que c'est vraiment, c'est bien foutu, quoi. Est-ce qu'on va le classer?
Alors.
Profites-en, hein, parce qu'ensuite il y a d'autres films qu'on voit. ça va être moins haut que ça, je pense.
Ouais. Par rapport à Ça tourne à Manhattan, je vois une comédie.
Ah, sur le méta.
Comédie méta. tu vois, par rapport aux Ailes de l'Enfer, qui est une autre comédie.
Alors, c'est marrant, je regardais les Ailes de l'Enfer, je me disais, est-ce que c'est mieux que les
Ailes
de l'Enfer?
Je me disais aussi, je pense que je continuerais de préférer voir les Ailes de l'Enfer, mais...
Tu sais quoi? C'est
voilà,
allez, go.
Sous les ailes de l'enfer,
mais au-dessus de Crayon Freeman. Grosse fatigue.
Oh, c'est un bon classement. Globalement, c'est dans les films qu'on recommande hein, jusque-là.
Ah, là, c'est dans le. Ah, ouais, je pense que là, on est quand même dans la recommandation. Il y a Face Off juste au-dessus.
Voilà, il y a l'échelle de Jacob très loin. Enfin, bon. Voilà, donc on est quand même bien, quoi.
Ça reste quand même bien. C'est bien payé. Deuxième film de cette liste, Accroche-toi. Je te rappelle, Usurpation d'identité, mais ce n'était pas vraiment un thriller. C'est La vérité si je mens de Thomas Gillis. Et je crois qu'on avait fait le 2. Hein.
Je crois qu'on en a parlé, mais alors, est-ce que c'est moi qui... c'est dans les années 2000, du coup, le 2.
Attends, non, vérité, je vois pas, vérité. Je regarde à ment, mais non. Non, je vois les 11 commandements, donc non.
Ce qui n'a rien à voir.
Attends, je suis en train de vérifier, mais ça, non, je crois qu'on a... On n'a jamais fait aucun des vérités, si je veux. Bah écoute, c'est la
c'est
toute
ça,
première.
C'est... Il faut en passer par là.
Alors, je te trouve difficile, déjà. Mais bon, ouais, vérité, si je veux. Alors, vérité, si je mens, c'est à l'époque où Thomas Gillis est le gros golden boy des comédies françaises. Si vous ne savez pas qui est Thomas Gillis, c'est celui qui avait fait Black Micmac.
Oui, ouais.
Tu vois,
ouais, je vois
Black
tout à fait,
Mac.
Ouais.
C'était un énorme carton dans les années 80. C'est. Les gens diraient un peu la France Black Bomber de l'époque. C'est comme ça qu'on disait. C'était avec Jacques Villeray et Isaac de Bancolé. Et c'était une comédie qui a vraiment, vraiment, vraiment fonctionné dans les années 80. Ensuite, le mec a réalisé Rail.
Ouais, Rail, ouais.
Qui a fait son petit. Son, lui aussi a
son petit effet, ouais.
Petite sensation. Rai, qui était connu surtout parce qu'il donnait un des premiers rôles à Samy Nasseri et aussi à une actrice qui s'appelait Tabata Cash.
Oui.
Dont je n'ai vu que ce film-là, je précise.
Mais, oui, bah, évidemment.
Mais Tabata Cash était très connue dans, genre, au milieu des années 90 parce que c'était une actrice de films pornographiques.
Tout à fait.
Et c'est un film qui représentait un peu le malaise de la banlieue, mais en même temps sous un jour un peu... C'était pas la haine, quoi, mais c'était...
Non, c'était pas la haine. Mais voilà, c'était effectivement une chronique de... une chronique de banlieue, voilà. Alors, je ne sais pas du tout comment Rai a vieilli, très honnêtement.
Je pense qu'on cringerait pas, mais tu vois ce que je veux dire.
Donc, mais oui, c'est voilà, il y avait un côté un côté chronique de banlieue qui avait fait son effet effectivement à l'époque, quoi.
Et il a réalisé donc les trois Vérités si je mens, ainsi que, et la dernière fois qu'il a fait un film, il a été un énorme succès, c'était Maison de retraite.
Avec Kevin Adams, oui.
Qui a fait plus de 2 millions de recettes, et c'est vraiment cher payé par contre.
Je l'ai pas vu, mais par contre j'ai vu beaucoup de fois la bande-annonce au cinéma, quoi.
Ça veut dire
c'est
que
vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu, quoi.
Ça veut dire que tu vas au cinéma. Et attention, aujourd'hui, on dirait que c'est une comédie communautariste, mais je déteste ce mot. Je déteste profondément ce mot. Tu sais pourquoi? Parce que l'extrême droite s'est emparée de ce mot depuis 5-10 ans pour mettre ça de sur côté négatif, alors que il n'y a rien de plus beau que les gens qui vivent en communauté et que les gens se retrouvent en communauté. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une manière de reprocher aux gens de se retrouver entre eux, ce qui est, je trouve, assez débile. Mais bon.
Oui, et puis on sait tous qu'il y a le bon communautarisme et le mauvais communautarisme.
Voilà. En général, voilà. Évidemment, le communautarisme des autres est moins bien que le sien.
Et moins bien que le sien, voilà, effectivement.
Voilà, exactement. C'est une manière de pointer du doigt les autres, hein.
On est bien d'accord.
Mais alors, donc, je réfute complètement ce truc. C'est une comédie, donc, qui parle, qui se focalise sur le sentier.
Oui.
Donc, si vous connaissez pas le sentier à Paris, c'est au centre de Paris. Et qui était entre deux rues, une rue principalement, rue de Turenne, mais il y a aussi d'autres rues, axée sur le textile, donc l'exploitation du textile, ce qui était l'apanage des juifs séfarades. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai parce qu'il y a aussi les Asiatiques et tout ça, mais ça représente ça. Hein. C'est les années 90 dans le sentier.
Voilà, et effectivement, le côté usurpation, c'est parce que le protagoniste, donc incarné par Richard Anconina, se fait engager dans l'entreprise du textile dans lequel voilà qui sert de toile de fond en le confondant avec un juif parce qu'en réalité le type n'est pas juif, il est juste paumé et un peu escroc sur les bords, on va dire.
Ouais.
Et la suite d'un quiproquo, en fait, il se retrouve en possession, je crois, d'une étoile de David ou d'un pendentif ou quelque chose comme ça.
Je sais pas quel est le truc qu'il fait, mais enfin, il croit qu'il est juif.
Voilà. Et en fait, le patron de l'entreprise de textile, donc c'est qui? Imite-le-moi.
Le patron. Ah, bah évidemment, c'est Richard.
Richard Branger, voilà.
Et Richard Branger l'embauche. Je pensais qu'il fallait que j'imite Gilbert Melki. Je me suis dit, dans la merde, je ne sais pas imiter Gilbert Melki.
Non, pas Gilbert Melki, parce qu'effectivement, Gilbert Melki joue un millionnaire, mais qui arrive plus tard dans le récit. Et voilà, au début, c'est effectivement le personnage de Richard Branger qui l'embauche en pensant qu'il est juif. Et évidemment, le personnage d'Anconina, au début, c'est pas trop quoi faire de ça, mais il se retrouve intégré dans l'entreprise et il gravit les échelons. Et donc, du coup, il se retrouve emprisonné dans son propre mensonge.
Comédie sur le mensonge.
Voilà. Et en même temps, du coup, intégré à cette communauté juive qu'il ne connaissait pas, quoi.
Et alors, il va se retrouver dans les quiproquos de famille. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a des personnages, quoi. Il y a Melki qui est le millionnaire de la bande.
Patrick Habitbol, voilà. Enfin, pareil, à l'époque, le personnage de Patrick Habitbol et le nom Patrick Habitbol, le film était vraiment connu, en fait, était vraiment populaire chez tout le monde, en tout cas chez son génération. Et c'est vrai que le personnage de Patrick Habitbol, incarné par Gilbert Melki, est resté voilà un des personnages clés du film, par exemple, avec le personnage de José Garcia aussi, par exemple. Voilà, c'était très
voilà
capsule temporelle, quoi.
Le personnage de José Garcia, lui, c'était le mytho de la bande.
Voilà, complètement.
C'était le proto Serge le mytho.
Oui, 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 complètement.
Et alors, tu sais quoi? Il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que, pour moi, tu parles de capsule temporelle, c'est exactement ça. C'est que, en fait, c'est comme un peu Rabbi Jacob qui se passait dans la rue des Rosiers, donc pas... qui, géographiquement, pour l'expliquer pour les non-parisiens, qui n'est pas très loin de la rue Turenne, en fait. Il y a une raison à ce que c'était le quartier juif de Paris. C'était que, vraiment, c'est des rues perpendiculaires. En fait, si tu regardes ça... C'est une photographie d'une époque qui est vraiment révolue.
Oui,
c'est-à-dire qu'ils vont un moment dans le bain du Marais, dans le hammam qui se trouvait sur la rue de Rosiers, quoi. Et qui a disparu depuis. Il y a vraiment beaucoup de choses, quand tu regardes, qui n'existent plus, parce qu'aujourd'hui, si tu vas à la rue des Rosiers, c'est plus les mêmes commerces du tout. C'est vraiment une photographie d'une époque. Hein. C'est le milieu des années 90 dans ce quartier-là. Et tu ne peux plus le voir, il n'existe plus vraiment.
Ouais, non, mais complètement. Puis après, pareil, voilà.
Je veux pas tuer le groove des gens qui débarqueront. En se disant, ouais, non, c'est plus ça, c'est plus la même chose.
C'est plus ça. Puis même, effectivement, le ton, la façon de décrire cette vie de quartier, cette vie de communauté, c'est pareil, en fait, c'est quelque chose qui se fait plus du tout aujourd'hui. Et. J'ai pas vu tous les la vérité si je mens, c'est-à-dire que j'ai pas vu jusqu'au la vérité si je mens Origins qui est sorti il y a genre pas si longtemps.
Je peux te dire, Jérôme fait un article dessus dans pas longtemps. Voilà, dans sa série de novembre, série d'été qui est à novembre-décembre. Voilà. Je peux te le dire parce que j'ai su, parce qu'évidemment on se voit beaucoup avec Jérôme et on discute beaucoup de son plan d'attaque et il me disait, je pense que la vérité si je mens Origins, C'est vraiment le truc qui a été démoli avant même de...
Oui, de sortir de terre.
Ouais, parce que les gens voulaient plus ça. Ouais.
Voilà, et effectivement, moi j'ai vu que la bande-annonce et tout, mais tu vois qu'à un moment donné, ce qu'arrive à créer ce film-là, voilà, c'est le fruit de son époque, en fait. Et en plus, il a les bons acteurs au bon moment.
Alors que c'est tous un peu des escrocs, hein, dans ce film-là.
Ah bah oui, bien sûr.
Mais il y a un truc un peu bienveillant là-dessus. C'est-à-dire, il y a un regard très tendre posé sur tous ces connards, parce qu'ils sont tous des arnaqueurs à leur manière. Moi, j'adore Gilbert Mekki, mais Gilbert Mekki joue un mec abominable. On n'a pas parlé de Vincent. On a mentionné Vincent Elbaz ou pas ?
On n'a pas parlé de Vincent Elbaz.
Mais Vincent Elbaz, clairement, je crois qu'il est. Enfin, c'est un couche. Je sais pas si c'est Vincent Elbaz ou Bruno Solo qui couche à droite à gauche.
Non, c'est Vincent Elbaz en fait, effectivement, où t'as tout l'arc avec le personnage de Horatica.
Ouais.
Voilà.
Oui, les rôles des femmes sont pas ouf.
Voilà.
Il y a Amira Khazar qui joue dedans. Il y a Horatica. Horatica, c'est sa maîtresse.
C'est la maîtresse de Vincent Elbaz, ouais, c'est voilà.
Et il y a un truc assez rigolo, et alors moi je trouve ça assez rigolo de la part de Thomas Gilou, c'est qu'en fait il joue avec les codes et avec l'identité des gens. C'est-à-dire que Richard Boringer, il n'est pas du tout juif.
Oui, tout à fait.
Bruno Solo, zéro. Mais par contre, Richard Anconina, oui, et oui. Il joue un quelqu'un de pas juif. Et il joue vraiment avec les apparences et les, tu vois, le truc genre, on lui demande ah, t'es juif, et dit et lui il dit je le suis, et il est intégré parce que on croit qu'il l'est, quoi. Et c'est un film qui joue énormément avec les apparences, et ça c'était vraiment, on pouvait vraiment se permettre ce genre de délire à l'époque, et c'est pas pour dire on peut plus le faire aujourd'hui, mais tu peux plus le faire exactement pareil aujourd'hui, quoi.
Non,
il y a un truc de l'ordre à la fois de la naïveté et du savoir-faire.
Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est un peu le truc, c'est qu'effectivement, il y a un côté très naïf dedans, presque très premier degré, en fait, finalement, dans son approche du truc. Voilà, d'une certaine façon, tu vois, c'est le genre de truc qu'aujourd'hui on n'arriverait plus à refaire parce que le climat est plus le même déjà, le quartier en tant que tel n'existe plus comme ça, et puis effectivement toutes ces questions là se sont vues appropriées par d'autres vecteurs, et finalement on se retrouve avec des sens un petit peu différents aussi, voilà. Et quand on a revu des comédies récentes qui parlent de l'identité de la communauté ou des choses comme ça, voilà, on se retrouve avec des trucs, voilà, des cristaux clavieriseries modernes, et tu vois qu'effectivement sur ces questions-là, le ton global a changé, quoi.
Voilà, ouais, il y a un truc de l'ordre de presque de la naïveté qu'on peut. Ah, il y a Anthony Delon aussi dedans, j'avais complètement oublié.
Ah oui, c'est vrai, exact, ouais.
Qui est pas du tout, n'était pas du tout de partie de ce clan-là, mais c'est ça en fait, c'est un film qui joue avec les codes, et je pense que c'est ça. Alors c'était un énorme succès, hein.
Oui, gros carton.
Je
sais
pas le nombre de millions de machin, mais et alors je me souviens plus de l'épilogue. Est-ce qu'il le dit ou pas? Je pense que c'est le principe du comédie de mensonge. À un moment, il avoue qu'il l'est pas.
Dans mon souvenir, effectivement, c'est le truc, c'est qu'il finit par l'avouer que globalement, en fait, c'est plus si grave que ça, quoi, que le bout du bout dans mon souvenir.
Ouais. Et oui, voilà, c'est que genre ils font comme si, ouais, genre, et au bout d'un moment, il est intégré dans tous les films. Mais bon, voilà. Alors les autres, je réponds de rien. Je pense que le troisième, je crois qu'il y avait une arnaque avec la Chine, c'était assez rigolo. Mais...
Le troisième, je ne l'ai pas vu.
Nomination pour José Garcia en tant que meilleur espoir masculin. T'imagines José Garcia à l'époque, meilleur espoir. Et Amira Khazar aussi, genre vraiment, t'imagines notre époque, quoi. C'était l'année, cette année-là, pour vous remémorer. C'est donc à l'époque, c'était 23e César 98. C'était on connaît la chanson dans l'araignée. C'était l'année de Didier.
Ah oui, ouais, d'Alain Chabat, ouais. Et tu vois, parce que je repense au casting, mais pareil, Bruno Solo, c'est avant Caméra Café. En fait, c'est via finalement ce film-là qu'il a que sa carrière a décollé. Bruno Solo, dans mon souvenir.
Je pense. Hein. Ouais, ah oui, ouais, non, Caméra Café, c'est après. Hein,
c'est après, c'est ça. Ouais. Ouais.
Je crois, hein, parce que Caméra Café, c'est genre ils ont eu l'idée et puis après. Non, il était présentateur télé, tu vois. Avant, il était pas.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est. Oui, parce que
Caméra Café, voilà, je reviens de vérifier, c'est 2000 ans.
Ah oui, donc c'est ça, c'est ça, dans l'ordre, c'est vraiment l'explosion, c'était, parce qu'effectivement, il était présentateur télé avec Yvan Le Bolloc à l'époque.
Yvan Bolloc, que je trouve vraiment très sympa aussi.
Ouais,
ils ne sont pas déplaisants tous les deux, genre, ouais. En fait, Yvan Le Bolloc, dès qu'il y a un truc à dire pour chier sur le gouvernement, il est hâle.
Ah oui, il est à fond la caisse, effectivement.
Oui, mais je crois que c'est son héritage, je crois qu'il y a un héritage tzigane, tu peux pas le...
Ouais, en tout cas... Je connais pas bien toute son histoire, mais en tout cas, je sais qu'il est très proche de l'héritage manouche, qu'il a d'ailleurs fait plusieurs albums de musique manouche, qu'il fait des tournées. Je crois qu'il avait joué à la fête de l'Huma, par exemple, avec son groupe, etc. Et voilà, il est très dans cette dynamique-là. Ouais. Et effectivement, il est
héritage gitan, peut-être, je ne sais pas.
Voilà, exactement. Et du coup,
techniquement, il est breton, hein, selon.
Oui, de son nom, voilà, c'est pareil. mais effectivement, c'est une culture dans laquelle il a plongé et vraiment il s'investit vraiment dedans. Et par contre, il a gardé un caractère très très indépendant vis-à-vis de beaucoup de choses. Et et c'est pas le dernier effectivement pour ouvrir sa gueule, quoi.
Voilà. Et en fait, c'est quoi ? Alors, je connaissais moins vraiment celui qui est décédé depuis, à savoir. Eli Kaku, en fait, il faisait du stand-up et il était ultra populaire à cette époque-là.
Ouais, alors Eli Kaku, finalement, je le connaissais à travers le stand-up, mais pas tant que ça, parce que c'est pareil, j'ai dû voir genre deux fois les deux mêmes sketchs en boucle au cours de rediffusion. Mais tu vois, c'est pareil, effectivement, c'était pas une personnalité qui m'avait marqué plus que ça.
Je me souviens du sketch où il faisait l'école, il faisait le retard, il va au bureau de Monsieur Hobbs ou un truc comme ça, Adrien.
C'est ça, voilà. Puis il y avait le sketch où il était en curé, je crois, un truc comme ça. Enfin, ouais, et c'est les deux seuls trucs que je connais d'Eli Kaku, enfin, dont je me souviens en tout cas.
Eh ben, écoute, on va classer ce film, ma foi, que je trouve plutôt sympa en fait.
Ouais, il est plutôt sympa. Alors après, c'est vrai que.
Je pense qu'en termes de twist et tout ça, c'est un peu limité, parce que ça reste une comédie de mensonges.
Mais après, de toute façon, honnêtement, c'est un film dont l'énergie repose à 90% sur les comédiens, quoi. Là, pour le coup, c'est pareil, tu vois, j'ai pas souvenir, effectivement, d'une fulgurance vraiment exceptionnelle en termes de mise en scène. On est bien, bien, bien au-dessus que Les Visiteurs, quoi. On les a mis où, Les Visiteurs?
Ils sont 187e.
Ah ouais, non, mais c'est vraiment. Enfin, moi, c'est un film, encore une fois, Les Visiteurs, je les ai revus, j'ai. Wow,
alors, figure-toi que j'ai un ami, on l'a déjà mentionné, il a écrit un article sur le Vérité si je mens Origins et tout ça, et il l'a montré à quelqu'un de son entourage, il ne l'avait pas vu. Il m'a dit, ça fonctionne toujours autant.
Ah non, mais c'est atroce, quoi. Moi, je me souviens, mais je crois que j'avais déjà raconté. Mais quand je l'ai montré à mes enfants, à la fin, ils nous ont regardé, puis je me suis excusé, quoi. Parce que c'est vraiment de la merde, en fait. C'est vraiment de la grosse merde.
Bon, on bref. Passe alors.
Mais c'est vraiment beaucoup mieux que les Visiteurs.
Moi, je regarde.
Tu vois, je trouve ça mieux que Space Jam. Et pourtant, il y avait Michael Jordan dans Space Jam.
Où Space Jam
160. Alors après, tu vois...
Je trouve ça mieux que Rasta Rocket. Voilà.
Moi, je préfère regarder Rasta Rocket, parce que... Mais... c'est un peu des comédies événements de ces mêmes... De
Adam's
ces...
Family. Tu préfères Adam's Family à Vérité si je mens?
Bonne question.
Ouais, mais je pense que c'est la limite du film.
Ouais, je pense qu'effectivement, on peut le laisser quelque part par là, ouais. Tu vois, effectivement, je vois pas ça au-dessus du talentueux Monsieur Ripley. Enfin, ça me paraît inconcevable.
Et je préfère USS Alabama, je pense, parce qu'il y a Denzel dedans.
Ouais, évidemment, évidemment.
Bon, allez, entre Adam's Family et Rasta Rocket.
Allez, c'est vendu.
Ah, vérité. Si je mens. 1.
Oui.
Bah, mais prépare-toi pour le 2, hein, le jour où on va le faire.
Eh ben, j'étais prêt dans le ventre de ma mère.
Et le dernier film de cette liste, est-ce que ça va être le dernier film de cet épisode?
Ah bah, je ne sais pas, je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira.
Le dernier film de cette liste, c'est un film de Gérard Krasvik.
Oula.
Qui s'appelle... Oh putain, tout de suite. Oula. Et c'est pas Wasabi.
Ouais, mais c'est... Ah oui, c'est encore 90 Wasabi en plus, putain la vache.
C'est un film qui s'appelle Héroïne.
Je crois que je me le suis épargné.
Non, tu l'as vu, je suis sûr.
C'est pas, non, je crois que ça me dit rien.
Avec Virginie Ledoyen.
Alors ça c'est un bon argument, mais c'est quoi le pitch?
Google l'affiche et tu vas tout de suite comprendre.
Héroïne avec un S, du coup, j'imagine.
Héroïne avec un S, ouais.
Je vois exactement l'affiche. Ouais, et je ne l'ai jamais vu.
C'est vrai, ah, ça va être compliqué de le gauler, hein, parce que c'est le genre de film qui a dispo... Ah non, regarde, il est dispo sur Canal VOD et d'autres trucs.
Ah bah voilà. Effectivement, je vois l'affiche très
sur
bien.
Apple TV. Oui, ah non, mais honnêtement, mais... moi je l'ai vu à l'époque parce que j'étais amoureux de Virginie Ledoyen. Bah, à l'époque.
À
l'époque, on s'entend, toujours. Mais... Il y avait un potentiel dans ce film-là.
Je le vois et je pense que je me souviens de l'affiche et peut-être même d'avoir vu une bande-annonce parce que justement on était tous dans le même cas que toi à cette époque-là.
Peut-être que tu te souviens de la bande-annonce et c'était genre. Et la bande-annonce jouait sur le fait qu'on va vous montrer les dernières images du film.
Ouais, mais je crois que c'est ça en fait.
Et ça remontait un peu le film, genre avec
À la Brian De Palma. Voilà. Et effectivement, quand j'ai vu le truc, voilà, si je me souviens, c'est un pitch dans l'univers de la variété, c'est ça.
Ouais.
Elle se fait passer pour une chanteuse alors qu'elle ne sait pas chanter.
Non, en fait, oui, il y a une qui est. Ouais, qui chante derrière et l'autre qui est le.
Alors que bon.
Faire valoir.
Faire des carrières de chanteuse ou de chanteur alors que tu sais pas chanter, c'est un peu la base aujourd'hui. Donc tu vois, finalement, je suis pas sûr que le film soit hyper pertinent
j'ai même
sur
envie
la longueur.
Dire, j'ai même envie de dire que tu sais, quand tu vois le marché des idols au Japon et tout, tu as envie de dire si tu sais chanter mais que t'es pas jolie, c'est dommage pour toi parce que le marché ne s'oriente pas dans ton sens.
C'est ça. Ouais. Donc, non, mais je l'ai pas vu.
Et on dit ça, je dis ça sans cynisme, hein, c'est vraiment le marché des idols tel qu'il est vendu, hein. C'est-à-dire c'est des,
bah
jolies personnes qui
la fabrique à idols ou à enfin idols
c'est
qu'elles soient
très très cynique
ou coréen,
et le
quoi.
Film est cynique de cette manière, hein.
Ah, cynique joue dedans, voilà, référence référence cynique. Culturelle
le rappeur.
Oui,
mais d'où tu connais cynique le rappeur?
Je sais plus
comment tu connais cynique le rappeur, mais attends, non, mais là tu viens de me scotcher, tu sais, je te dirais un truc genre le 113, tu dis qui? Et là, Cynic le rappeur, tu connais?
Ouais, je connais, je sais pas pourquoi je connais Cynic le rappeur. Ça,
ah, je sais pourquoi, il a la même coupe de cheveux que toi.
Oui, alors ça c'est pas compliqué. mais voilà, je connais, mais sache que j'ai été un. Je crois que je l'ai déjà raconté, mais j'ai assisté à un concert de Dizzy La Peste en fait.
Ah, d'accord, comment ça se fait?
Bah parce que tout simplement il était perdu dans la programmation des Eurocans de Belfort et que du coup en fait je voulais une bonne place pour le concert qui était après.
Et c'était quoi le concert après?
Et je me demande si c'était quoi? C'était pas Sepultura parce que Sepultura c'était sur l'autre scène. C'était quoi? Je sais plus ce que ça devait être. Je me demande si ça devait pas être Nada Surf ou un truc comme ça à l'époque. C'est les années 90, hein. Pardonnez-moi parce que Nada Surf en fait depuis a sorti vraiment que des albums de daube. Mais voilà, je me souviens qu'on était au concert d'Isla Peste. Mais alors encore une fois, c'était 98, 99, hein, ou enfin tu vois dans ces eaux-là. Aujourd'hui, la programmation des Eurocans de Belfort est quand même un peu plus éclectique. À l'époque, c'était vraiment le seul, tu vois. Et ils se retrouvaient dans un festival où t'avais du Sepultura, t'avais du Red Hot Chili Peppers. Enfin, globalement, les gens venaient pas pour ça. Et quelque part, j'ai eu du respect pour Dizzy La Peste qui a maintenu son set alors que globalement il était quand même en terrain hostile, tu vois. C'était pas, enfin je pense que c'était pas évident de jouer devant une foule pareille, quoi. Donc quelque part voilà, c'était une expérience intéressante, quoi.
Bah écoute, d'abord j'ai rajouté en héroïne en devoir de vacances. Et j'espère que tu vas le voir parce que à mon avis il faut que tu te platines toute la filmo de Gérard Krasvik. Il y en a pas tant que ça.
Tu sais que je suis pas à l'abri qu'un jour François Coe m'appelle et me fait au fait on se fait une intégrale Gérard Krasvik, tu vois.
Il y en a pas tant, il y a pas tant de films que ça. Hein.
Oui, bah, je
il a fait Chevalier du Ciel, Taxi 2, Taxi 3.
3, Wasabi.
Wasabi. Et voilà, et bon, voilà, tu veux pas en faire beaucoup, quoi.
Ouais, mais c'est, faut quand même les voir, quoi.
Il faut les voir, mais je pense que c'est à ta portée. Je pense que c'est pas. En plus, c'est des films qui durent 1h20 en général, bon, ça va.
Eh oui, eh oui.
Bah écoute, on va remercier Antoine pour sa liste.
Merci Antoine pour, pour tes listes.
Et ce n'est que charge de revanche pour Héroïne. D'ailleurs, j'ai su te séduire, Stéphane.
Ah bah, complètement.
Puisque je t'ai dit, il y a Virginie Ledoyen.
Voilà, complètement. Ça me suffit comme argument.
Bah écoute, on va rester dans le cinéma français avec cette liste qui nous est envoyée par Francisco San.
Merci Francisco San pour ta liste.
Il nous les a envoyés en 2022.
Bah, il en est toujours là, je suis sûr, quelque part.
Et c'est une liste qui il s'appelle Entre Meufs.
Ok.
Et c'est une liste, c'est leur film, c'est film qui, de femmes qui parlent aux femmes. Je sais pas si c'est une interprétation personnelle, mais peut-être que c'est pas ça. Néa nous prouve qu'elles n'ont pas besoin des bonhommes, c'est ce qu'il nous, dit.
D'accord.
C'est le fille pouvoir français. Girl Power,
tu l'as? Oui, je l'ai.
Et c'est que des films avec plutôt des femmes. Il y a bien sûr des rôles d'hommes, mais honnêtement, en a-t-on vraiment besoin? Le premier film de cette liste, c'est ah merde, putain, je crois qu'il a. Est-ce qu'il... Non, je vais googler pour vérifier s'il est. Putain, parce que c'est le problème de ces réalisateurs, c'est est-ce qu'ils sont en tôle depuis, est-ce qu'ils ont été machin. Donc on verra. Alors, premier film de cette... J'inverse l'ordre de ce que j'avais fait.
Il était cancel.
Oui, oui, ou ce genre... Mais je vais vérifier. Premier film de cette liste, c'est Vénus Beauté Institut de Tony Marshall.
Voilà, oui.
Tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu au moment de sa sortie. Donc, effectivement, Nathalie Baye,
Audrey Toutou. Seignet,
Audrey Toutou... Donc un film qui tourne autour justement d'un institut de beauté, ouais. comme son nom l'indique. Voilà, et avec le principalement autour de ces trois esthéticiennes qui sont un peu, on va dire, la représentation de trois âges différents, on va dire. Chacune a un peu un rôle en fonction de son âge, et quelque part, c'est enfin, moi en tout cas, je l'avais interprété comme ça, c'est presque le même personnage qui est décliné à différentes périodes de sa vie, qui va en fait qui part d'un côté se retrouve coincé parce qu'il est toujours au même endroit, mais qui en fait va évolue dans son propre cheminement personnel, quoi.
Exactement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que chacune représente un peu un moment, un caractère presque un caractère différent, un stade différent de sa vie. C'est-à-dire que Nathalie Baye, elle est, c'est-à-dire elle est désenchantée en fait. Nathalie Baye, c'est elle qui possède le cabinet, enfin l'institut.
L'institut, ouais.
Elle est désenchantée. Elle est, il y a plus la vie n'a plus rien à lui réserver, tu vois, c'est un peu ça. Et du coup, son rapport avec les hommes, c'est juste du cul, et voilà, c'est vraiment elle cherche juste le cul, et elle croit plus en l'amour. Mathilde Seignet, elle est un peu, alors Mathilde, elle en précise, c'est Mathilde Seignet. Alors je disais quand c'est
d'avant.
Est-ce que figurez-vous qu'il y a une époque Mathilde Seignet était hype en fait.
Ouais, c'est Mathilde Seignet à l'époque où on savait pas, tu vois.
Non mais c'est dur à entendre aujourd'hui. Mais Mathilde Seignet était non seulement bonne actrice, mais genre avait notre sympathie globalement.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'elle est un peu la forte en gueule de la bande en fait, si je me souviens.
Bah c'est Mathilde Seignet, quoi, voilà, tu la prenais pour ce genre de rôle, quoi.
Ouais, mais à l'époque elle était pas.
Oui. Elle avait le côté forte en gueule, mais elle disait pas trop de conneries, quoi. En tout cas, ça se remarquait pas.
Mais je veux dire, c'était pas un premier rôle, quoi. Et là, vraiment, elle est pas le premier rôle, mais elle avait un rôle très très remarquable. Et en plus, bah, il fallait la vista de mettre Audrey Tautou, dont c'était par contre un des premiers grands rôles principaux.
Ouais, je crois que c'est effectivement, si c'était peut-être même le film qui va un peu la placer, parce que évidemment, enfin, Audrey Tautou, c'est Amélie Poulain qui va faire d'elle une star, mais dans mon souvenir, je crois que justement
elle a 22 ans là.
Ouais, c'est ça. Elle se fait remarquer avec Vénus Beauté Institute, en fait. Et effectivement, ouais, tout le talent de Tony Marshall, c'est de trouver, d'avoir su la trouver à ce moment-là. C'est peut-être son deuxième, premier. Enfin, voilà, c'est dans ses tout premiers rôles, quoi. C'est vraiment au tout début, quoi. Et d'ailleurs, elle n'a pas été nommée au César pour ce rôle de...
Ah là, tu veux que je sorte la carte César ? Attention, César des années 2000, donc c'est vraiment le...
Bon, oui, bah oui, parce que...
99.
Ouais, c'est ça.
Alain Delon était le président de la cérémonie. Et c'est une ironie parce que c'était le grand tournant du siècle et de mettre Alain Delon qui n'a jamais eu de César, qui lui chie dessus chaque année. Et il est venu quand même en grand prince, en président de cérémonie avec Alain Chabat à la présentation. T'imagines, quel ça devait être quelque chose. Ouais, on devait bien s'amuser, hein, dans les coulisses.
Le duo, quoi.
Ouais, et meilleur film, Vénus Beauté.
Ouais, c'est ça, ouais.
Qui a battu donc Les Enfants du Marais de Jean Becker, Est ou Est de Régis Varnier, très bon film. Fille sur le pont de Patrice Augonde et Jeanne d'Arc.
Ah oui.
Mais César du meilleur film étranger, Tout sur ma mère, devant... Oh là là, oh putain, oh là là. Mais c'est Tout sur ma mère qui gagne devant Dans la peau de John Malkovich, Eyes Wide Shut, Ghost Dog et La Ligne Rouge. Putain, c'est pas l'année où il fallait se présenter. Meilleur acteur, c'est Daniel Auteuil sur La Fille du Pont. César, meilleure actrice, c'est Karine Viard pour Rolliqueur. César de comédien de second rôle, c'est Berlin pour Une Petite Entreprise. Charlotte Gainsbourg pour La Bûche. Tiens, La Bûche est sortie cette... Ah, putain, c'est presque dommage parce que La Bûche est vraiment un film intéressant. Enfin, mais par rapport à Vénus Beauté qui était un succès commercial de ouf. Audrey Tautou, donc Vénus Beauté, victoire pour le César du meilleur espoir féminin.
Ah ouais, c'était ça, ouais.
César du meilleur réalisateur pour Tony Marshall pour Vénus Beauté.
Ouais, ok.
Non, vraiment, ils ont, c'est la grosse razzia. Hein. Je pense que Luc Besson, il devait être dégoûté.
Ah oui, bah, Luc Besson, il avait sorti la grosse artillerie.
Il devait se dire, oh là là, c'est bon. Là, c'est bon, j'ai mon film à César.
Et Tony Marshall débarque, trois meufs dans un huis clos, et hop, pouf.
Et tu sais quoi, rien que pour ça, j'ai envie de te dire merci Tony. et c'est un film un peu. C'est un film drôle et un peu doux amer, un peu sur.
Oui, oui.
Il y a un personnage solaire, et ça va faire encore plus bizarre de dire ça, joué par Samuel Le Bihan.
Oui, c'est vrai.
C'est genre Samuel Le Bihan, c'est le grand romantique, quoi. Et c'est lui, il va devenir le love interest et tout, et genre, il va. Essayer quand même de rendre goût à la vie à Nathalie Baye, enfin voilà. Et il y a Robert Hossein qui joue un personnage aussi.
C'est un film qui a, justement, quand tu parlais de l'inclinaison de personnage de Nathalie Baye à être désabusé, presque spectatrice de sa propre vie d'une certaine façon, le ton du film est un peu comme ça, c'est-à-dire que globalement c'est un film qui va être ancré dans une certaine banalité, justement ce côté vase clos de ces trois femmes qui représentent encore une fois trois conditions et trois âges différents, peut-être même du même personnage. Y a un côté, voilà, on va être vachement ancré dans cette espèce de banalité, et en fait, l'un des enjeux, à travers notamment le personnage de Samuel Bihan, puis à travers surtout l'interaction entre les deux trois femmes, qui ont finalement pas tout à fait le même rapport aux choses, c'est comment s'extirper quelque part de cette espèce de banalité qui est un peu écrasante parfois, quoi. Et c'est effectivement, ça donne un côté doux amer, parce que c'est pas vraiment une comédie dans le sens film hilarant, mais c'est plus une espèce de drame avec des moments de soupape et de relâchement un peu tendre, quoi.
Exactement. Il y a Micheline Prel aussi qui joue dans le film, ce qui est assez rigolo puisque c'est la mère, c'est la mère de Tony Marshall.
Ah oui, oui, ouais. D'accord, oui, oui, tout à fait.
Et alors Micheline Prel qui est décédée, oui, cette année, c'est pour ça que j'y repense.
Tout à fait, tout à fait.
Écoute, je trouve que c'est un film plutôt chouette. Genre, c'est un film qui m'apporte une espèce de... Quand j'y repasse à la télé, j'ai une tendance à le regarder avec un air...
Et il y a aussi Gilbert Melki dedans, en fait, maintenant que j'y pense.
Il y a Melki ?
Bien sûr, oui.
Il joue qui? Ouais, alors, c'est dur de dire il joue qui, parce qu'en fait, le parti pris du film, c'est de jamais mentionner les... De jamais mentionner... Ah, mais c'est vrai, il joue un des mecs. Un des,
ouais, voilà.
Un des mecs de Nathalie Baye. Il n'y a pas de nom mentionné à part de rares occurrences. Les clients sont jamais nommés, en fait.
Ouais, sont jamais nommés, ou alors sont... oui, effectivement, les, ou alors t'as que des prénoms, au mieux. Enfin, mais c'est effectivement, beaucoup de personnages n'ont pas de nom, quoi.
Et ça joue sur... C'est vrai que c'est des petites scénettes de vie. Je me souviens, il y a la fameuse scène du full frontal qui reste dans le mur. En général, c'est l'extrait qu'on sort dans tout... Dans... Genre, pour parler de ce film, à un moment, il y a une cliente qui arrive en full frontal en disant « Ah, moi, ça en est où de mon truc ?» Et ouais, j'aime beaucoup ce film. Et écoute, Mathilde Seigné n'a pas eu le César de la meilleure actrice de second rôle. Déjà, c'est une petite victoire. Mais non, mais c'est un. Ouais, toi aussi, donc, du coup.
Moi, c'est un film que. Voilà, c'est un film que j'apprécie. Alors, je pense que c'est pas un film que je reverrai beaucoup. Mais je trouve que, voilà, il y a. Il arrive à broder quelque chose, encore une fois, là, autour de cette idée de la banalité, du comment on s'extirpe un peu du train-train, parce qu'il y a aussi un peu de ça.
Il y a aussi la notion vraiment du temps qui passe, quoi. C'est le fait que les clients ne sont pas nommés et que. Un peu inexorable, un peu. Il y a un truc de fatalité, mais que je trouve assez beau, hein. Je trouve ça vraiment très très beau, en plus par le prisme de ces femmes, quoi. Et je trouve que Nathalie Baye, c'est bah justement, on parlait des grandes actrices de la comédie française, je trouve que Nathalie Baye sait jouer la mélancolie comme peu de gens, quoi. Et on l'a mentionné, puisque souviens-toi, on en a parlé dans Le Petit Lieutenant.
Ouais, non mais effectivement, de toute façon, enfin, Nathalie Baye, globalement, enfin, c'est... Je n'arrive pas à voir où est-ce qu'elle ne pourrait pas jouer quelque chose, en fait. Et effectivement, toutes ces années, c'est vrai que tu parles du petit lieutenant, mais toutes ces années-là, les années 90, en fait, elle est incroyable, en fait, à chaque prestation. Et c'est vrai que là, elle apporte, enfin, les trois sont, et pourtant, je suis très loin d'être fan d'Audrey Tautou, mais là encore, je pense que Tony Marshall la dirige pas comme...
Il fallait avoir du nez, hein, pour prendre Tautou à l'époque, hein.
Ouais, je pense que Tony Marshall la dirige pas comme les gens vont la diriger après, en fait. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'Audrey Tautou, une fois que tout le monde a vu Amélie Poulain, on va lui demander de jouer comme Amélie Poulain, et en fait, c'est insupportable. Là, justement, au contraire, Tony Marshall la chope avant, et lui fait jouer autre chose, et du coup, la dynamique fonctionne bien, et Nathalie Baye, c'est pareil, je trouve qu'elle drive vraiment le film, quoi. Donc moi, j'ai un souvenir assez tendre de ce film-là. Après, voilà, c'est pareil, il a un peu, je trouve, l'inconvénient des films assez nets, c'est-à-dire que tu vois où le film veut en venir, et parfois t'as l'impression que certaines scènes, on les a gardées parce que la séquence est sympa, mais... Voilà, il y a des fois où je trouve que tu te perds un petit peu dans là où on veut en venir ou pas. Il y a quelques répétitions, des choses comme ça. Voilà, c'est un style un peu particulier, quoi. Justement, ça assume ce côté scénette, encore une fois, banal, presque accolade de moments. Mais voilà, je trouve que il y a certains moments, ça se ressent un petit peu aussi. Donc ça peut être un peu la limite quand on regarde Vénus Beauté, quoi.
Alors on va le classer.
Ouais, on va le classer. Je préfère ça à La Vérité si je mens, déjà. Puisqu'on est...
Ouais, j'essaie de trouver un truc qui me... Je trouve ça mieux qu'Anne Margot.
Mais
tu vois, un film sur la mélancolie de la condition des femmes dans les années 90, il y a Girl Six, tu vois. Je trouve ça mieux que Girl Six.
Ok. Alors, attends. Alors moi je préfère La Reine Margot, mais après...
Non, bah écoute, on trouve un juste milieu.
Mais après je préfère ça à Sleepy Hollow aussi quand même. Tu vois, c'est tout le dilemme du marbre à chaque fois.
Tu préfères Vénus Beauté à Sleepy Hollow?
Ouais, mais par contre je trouve que je pourrais pas mettre Vénus Beauté au-dessus du cousin, tu vois. C'est tout le...
Ok,
tout
d'accord,
le...
bah écoute, allez, allons-y.
Donc on peut la mettre entre le cousin et la reine Margot, du coup. Comme ça, on est...
Institut. En général, l'institut, il le mettait entre parenthèses.
Entre parenthèses, voilà, tout à fait. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un détail qui m'a vachement marqué à l'époque, je ne sais pas pourquoi. Mais le Vénus beauté, entre parenthèses, institut, voilà, je sais pas, c'est un élément qui m'avait marqué.
Mais, bon film de Tony Marshall.
Tout à fait.
Et je suis en train de me demander, qu'est-ce qu'elle a fait depuis Tony Marshall
ben, je ne sais pas, oula, qu'est-ce qu'elle a fait depuis
Tony Marshall, attends, Tony Marshall, parce qu'elle a fait sans doute des films, mais moi, elle... Et tu sais qu'il y a eu une série télé de Vénus Beauté.
Ah bon, alors je sais pas du tout.
Ça s'appelait Vénus et Apollon ou quelque chose comme ça.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, genre une série télé, et dedans, je crois qu'il y avait Mélanie Bernier. En fait, globalement, c'était un peu les mêmes archétypes, quoi. Mais il y avait
après, voilà, encore une fois, le côté déclinaison de scène de vie, bah, finalement, en série, quelque part, ça se... Ça, il y a une certaine logique, mais je sais pas du tout qu'ils avaient.
Ils ont fait une série télé. J'ai jamais vu.
D'accord.
Le deuxième film de cette liste, c'est La vie rêvée des anges de Eric Zonka.
Voilà, grosse poilade. Voilà. globalement, grosse poilade. La vie rêvée des anges, donc effectivement avec
Elodie Bouchèze. Elodie Bouchèze et Natacha Régnier, deux révélations.
Voilà, c'est ça, effectivement.
Qui ont eu le double prix d'interprétation à Cannes.
À Cannes, ouais, c'est ça.
Ami oui. Client de l'overhype de l'époque, on est dedans. Mais c'est ouais. Moi, c'est... Voilà.
Voilà, on est dedans. En fait, le truc, c'est que... c'est qu'effectivement, je trouve que le... donc, un film de Eric Zonka, et qui est une chronique de la vie lilloise, quelque part. Voilà, je ne sais pas comment décrire le film, mais en fait, en gros, on va suivre les deux personnages donc d'Élodie Bouchèze et Natacha Régnier dans leur déambulation, qui sont un peu des zonardes, en fait, d'une certaine façon, dans le nord de la France. Et voilà, on va les suivre dans les galères, dans leur vie quotidienne, un peu comment est-ce qu'elles s'en sortent, comment est-ce que aussi leur relation évolue, puisque effectivement elles sont accolées l'une avec l'autre, mais parfois les galères puis les mecs etc vont faire que vont progressivement être obligées d'avoir leur relation qui évolue avec des disputes, avec des choses comme ça.
C'est des galériennes, hein, voilà.
C'est des galériennes, effectivement, et donc par contre le truc c'est qu'elles sont soudées. Elles sont soudées, elles vont de petit boulot en petit boulot. Voilà, elles sont vraiment en mode presque survie au radar quelque part. Voilà, jusqu'au jour effectivement l'une d'elles va tomber amoureuse. Cette relation va petit à petit détruire ou en tout cas détériorer l'espèce de tissu inflexible qui les reliait auparavant l'une à l'autre, quoi.
Et il leur arrive que des galères et des horreurs, hein. Vraiment, il leur arrive des horreurs. Et comme tu l'as dit, c'est pas la joie de vivre.
Non, c'est globalement pas un film de la joie de vivre. Voilà, je me rappelle, j'étais allé le voir au cinéma à l'époque. Et globalement, ouais, c'est un film très déprimant. Alors en plus, du coup, la caméra de Zonka va avoir une approche très très dardénienne quelque part, à filmer ça, caméra à l'épaule avec beaucoup de grains. Une photo qui est volontairement pas du tout stylisée, c'est-à-dire que voilà, on va avoir des gros contrastes ou lors des scènes d'extérieur, voilà, des gros contre-jours, des choses comme ça. Enfin voilà, on va essayer de chercher un peu ce côté vibrant quelque part, prendre le pouls de la rue, donc ça amplifie un peu le côté un peu cracra de l'univers. Et effectivement, le fait est que ce qu'elles vont vivre en termes de scénario et de rebondissement, ça va quand même rajouter un certain nombre de couches, voilà. Et la combinaison des deux, voilà, c'est un film qui globalement est fait pour te secouer, quoi.
Est-ce que t'aimes ce film?
Alors c'est un film dont j'ai compris le double prix d'interprétation, c'est-à-dire que je trouvais vraiment que la dynamique entre les deux actrices était vraiment super. Par contre, sorti de ça, je trouvais que le film en faisait quand même des caisses, en fait. Et pas dans le bon sens. Il y avait un truc qui me... Voilà, plus le film avançait et plus ça me dérangeait, surtout que je crois qu'à un moment donné, justement, comme elles se séparent, il y en a une qui il y a une histoire d'une relation avec une fille qui est dans le coma. Enfin, tu sais, c'est genre, on va te rajouter des trucs à chaque fois. Et au bout d'un moment, j'ai fini par plus trop y croire, en fait. J'ai fini par plus trop y croire. Et du coup,
ah oui, c'est vrai qu'il y a une troisième fille dans le coma, ouais.
Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, justement, le dispositif coup de poing, voilà, documentaire à la The Shield.
C'est un moment, il y en a un peu trop.
Voilà, à un moment donné, j'ai trouvé que ça en faisait vraiment beaucoup trop. Et toute la sympathie que tu peux avoir pour les personnages au début, en fait, au bout d'un moment, je trouvais que ça devenait juste des archétypes, en fait. Et voilà, j'arrivais plus à y croire, quoi.
Je suis pas fan de ce film. Je trouve que c'est vraiment. Genre, il y a un peut-être que c'est moi, hein, mais il y a un chouïa trop de pathos au moment. À un moment, c'était trop, quoi.
Voilà, non, mais alors après, voilà.
Est-ce que c'est pas l'effet voulu? Parce que c'est quand même deux filles de la classe ouvrière qui leur arrivent que des merdes. Je sais pas.
En fait, voilà, c'est effectivement, c'est des questions de positionnement et tout. Et puis, en tant qu'amateur du cinéma coréen, trouver qu'un film en fait trop, c'est peut-être mal placé de notre part.
C'est le Kim Ki-duk français, Eric Zonka.
C'est ça.
On a le titre, Kim Ki-duk français.
Le Kim Ki-duk français, exactement.
Si François Coe, il nous écoute pas, je sais pas.
Mais en fait, le truc, c'est qu'effectivement, peut-être, je trouve la limite, en tout cas, de cette approche-là, et que n'a pas justement le cinéma coréen, c'est que justement, le dispositif de mise en scène et d'écriture veut vraiment te chercher à te plonger dans un certain réalisme. Il y a vraiment, voilà, je citais les Dardenne, mais évidemment Ken Loach, l'ombre de Ken Loach est quand même un peu partout présente sur ce film-là. Et du coup, c'est un dispositif qui, à mon sens, engage quand même à de gros risques quand tu franchis une certaine limite, c'est-à-dire que voilà, tu peux aller loin et montrer des choses affreuses, etc. Mais je trouve que la façon dont c'est fait, il y a quand même un petit côté accumulation, en fait. C'est-à-dire que, passé un certain stade du film, je comprenais plus où est-ce qu'il voulait en venir. Et encore une fois, là, je voyais plus le côté démonstration du scénariste et du metteur en scène que ce que nous montrait le début du film, c'est-à-dire que je trouve qu'encore une fois, là, les actrices sont vraiment super et que la dynamique et la façon de présenter leur univers et les rendait assez attachantes. Mais au-delà d'un certain stade, au bout d'un moment, je trouve que je voyais pas où ils voulaient en venir. Et pareil, je trouve le dernier tiers vraiment raté, en fait. Je trouve que ça fonctionne pas. Ça en fait trop et ça m'a perdu, quoi. C'est pas un film que je considère comme mauvais en tant que tel, mais je pense qu'il passe un peu à côté lui-même, quoi.
Allez, on va le classer.
Après, le titre est très bien, ceci dit.
Le titre est bien et l'interprétation des filles est.
Ouais, super. Hein. Mais ouais.
Et Elodie Bouchet, qui était déjà une bonne star, hein, à l'époque, puisque elle a déjà joué dans pas mal de choses, et ce qui explique qu'elle est candidate pour le prix de meilleure actrice qu'elle obtient, contrairement à Natasha Rigné, qui obtient le César du meilleur espoir, puisque elle était toute jeune à l'époque.
Ouais, parce qu'elle est début chaise, elle était passée par Paris le jeune avant, du coup.
Ah oui, elle a fait beaucoup, déjà une grosse carrière, ouais, à ce moment-là.
Tout à fait.
César du meilleur film pour celui-là, face à Ceux qui m'aiment prendront le train de Patrice Chéreau, Le dîner de con de Francis Weber, Place Vendôme de Nicole Garcia et Taxi de Gérard Pires.
Oula, je cherchais l'intrus.
C'est fou, hein, que Taxi était là.
Ouais, c'est... écoute.
Ah, César d'honneur, cette année-là. On est donc en mars 99. César d'honneur pour Jean Rochefort, Pedro Almodóvar et Johnny Depp.
Ah, ouais. Tu sais, c'est comme le même, tu sais. Hein.
Ouais, exactement. Je vois très bien le même que tu. Qu'est-ce que
Donc, la vie rêvée des anges.
Quand je pense que César de musique originale, c'est pas IAM qui l'a eu pour Taxi. C'est dommage.
C'est vrai.
Je trouve ça. Bah, Taxi est 193e, je trouve ça mieux que Taxi.
C'est mieux que. Non, mais, oui, c'est quand même mieux que Taxi. C'est, c'est quand même mieux que Taxi. Mais tu vois, voilà, c'est pas mieux que Gazon Maudit, par exemple, que je vois la 171.
Ah ouais, non, c'est pas mieux que Gazon Maudit, c'est sûr.
C'est moins bien que Piège à grande vitesse. Je suis désolé de le dire, Eric Zonka, mais je préférais toujours Piège à grande vitesse.
C'est parce qu'elle a viré des se battent avec des couteaux qui vont cling cling dedans. Non.
Non, crois, non, non, non. Voilà. Est-ce que Kazé Raibach est dans ce train dans.
Écoute,
la virée des anges,
je trouve ça moins bien que Shoot Fighter. Et je trouve ça moins bien que Belle Maman.
Ah, oh, Belle Maman, quand même, t'es rude. Mais c'est mieux que Les Visiteurs.
Allez,
par contre.
Entre Belle Maman et Visiteurs, allez.
Allez. Putain, Belle Maman, c'est rude quand même, mais bon.
Ouais, mais écoute, c'est normal.
Mais il n'y a pas Idriss Elba dans La Vie Rêvée des Anges, c'est contrairement vrai. À Belle Maman. Donc voilà, on ne peut pas tout avoir.
La Vie Rêvée des Anges. Et le dernier film de cette liste, eh ben écoute, figure-toi que. Alors j'ai dû le voir, mais je n'ai aucun souvenir, je ne peux pas en parler.
Ah bah bravo, super.
C'est un film de 95 de Claude Chabrol qui s'appelle La Cérémonie.
Ah bah oui, alors je l'ai revu récemment. Ah ouais, enfin récemment, je l'ai revu l'année dernière quoi.
Ouais, et ben moi je me le marque de parce que vraiment c'est avec Nathalie Baye, non, c'est qui déjà?
Non, c'est Isabelle Huppert.
Isabelle Huppert, OK, d'accord.
Et Sandrine Bonnet.
Bah écoute,
et Virginie Doyen aussi.
Écoute, c'est bon. Je le regarde dans l'heure. Mais je suis désolé, j'aurais bien parlé mais je n'ai aucun souvenir et je crois que c'est une histoire de il y a un meurtre et ils font genre. Et oh putain, non, mais il y a une histoire de meurtre.
Alors, il y a une histoire de meurtre, quelque chose, mais le point de départ, c'est qu'en fait.
C'est pas des femmes de ménage?
En fait, si, en fait, c'est une famille bourgeoise, donc dont le patriarche est incarné par Jean-Pierre Cassel et la fille par Virginie Audoyen, qui engage une bonne, donc le personnage de Sandrine Bonner, qui a la particularité d'être un petit peu repliée sur elle-même et analphabète, et qui va en fait se lier d'amitié avec une postière, donc jouée par Isabelle Huppert, qui au contraire, elle est très exubérante, voilà, mais qui a un vieux contentieux avec la famille de Jean-Pierre Cassel, quoi. Mmh. Voilà, et donc du coup, elles vont nouer une amitié, et puis voilà, ça va entraîner un certain nombre de choses.
Je suis déjà en train de regarder Just Watch où je peux essayer de le gauler. Et bah, tu sais quoi, on va s'arrêter là parce qu'on a fait quand même deux bonnes listes avec pas mal de films classés. Et note bien qu'on a fait un intégral film français, j'ai l'impression.
Oui, oui, c'est un épisode 100% film français.
Ouais, écoute, mais avec le Kim Ki-duk français.
Avec le Kim Ki-duk français, ça.
Stéphane, allez, vas-y. Oui. Bah, c'est l'heure de nos recos. Vas-y, balance le son.
Eh ben écoute, ça serait une recommandation cinéma. Voilà, donc ce ne sera pas Joker Folie à 2, parce que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu.
Tu sais quoi, je suis très content qu'on n'ait pas ce petit aparté où on parle de cinéma, de qu'on a vu récemment, parce que moi je l'ai vu, et c'est catastrophique.
Je troll, mais je ne l'ai pas vu. Enfin, je ne l'ai pas encore vu, parce qu'il faudra bien le voir pour le classement des blockbusters de After Eight. Voilà, donc c'est un film qui en réalité ne date pas de cette année, mais qui sort cette année en France seulement. Il sort sur la plateforme Filmo TV, du coup. C'est pas un film que vous pourrez voir en salle, alors que je pense que c'est un film à vivre en salle qui vaudrait son pesant de cacahuètes, qui s'appelle Hundreds of Beavers, donc des centaines de Castor, c'est la traduction du titre, et qui est donc un film indépendant, et quand je dis indépendant, c'est vraiment un film réalisé avec deux Francis Sous perdus quelque part dans l'Ouest américain, qui va nous raconter en fait une sorte d'épopée hivernale d'un vendeur de jus de pomme. Qui, à la suite d'un accident, perd toute sa récolte, et se retrouve obligé de survivre dans le Grand Nord et le froid, et donc du coup il va devenir trappeur pour pouvoir survivre. Et alors dit comme ça, bon voilà, mais en fait la particularité c'est que c'est un film, c'est en réalité un film muet, en noir et blanc, qui va te mélanger Buster Keaton et Tex Avery. Voilà, avec des centaines de castors. Et c'est un déferlement d'idées scénaristiques, visuelles, complètement ma boule. Il y a vraiment, enfin, il y a souvent cette expression une idée par plan, mais là on est vraiment là-dedans. Voilà, ça part dans tous les sens. Il y a une super utilisation de la limite de moyens et en même temps du jeu qu'on peut avoir avec les codes du film burlesque, vraiment, parce que c'est vraiment du burlesque à Buster Keaton, voilà, c'est très enfin j'ai trouvé ça vraiment très très drôle, très énergique. Ça dure pratiquement 2 heures, mais en fait je trouve que ça se renouvelle vraiment bien tout le long. Donc voilà, et donc si vous pouvez voir Hundreds of Beavers, s'il vous plaît faites-le, parce que c'est toujours cool d'avoir ce genre de film qui soit distribué chez nous. Voilà, encore une fois je crois qu'il date de 2022 dans mon souvenir, donc il a mis un petit temps à arriver chez nous, mais il a fait pas mal de tournées de festivals, il a eu plusieurs projections un peu partout dans des festivals indépendants, dans des marchés du film, jusqu'à ce qu'il arrive enfin chez nous. Et je trouve que c'est un des films les plus drôles que j'ai vu cette année, enfin en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à voir ça, et énormément d'inventivité dans la mise en scène, dans la folie, dans l'utilisation du son aussi. C'est un détail tout bête, c'est un film muet, mais du coup ça veut pas dire que c'est un film qui soit sans son, n'est-ce pas Véronique? Et je trouve que ils arrivent à faire un truc assez chouette justement sur l'utilisation des sons, du rapport entre le son et l'image, enfin vraiment c'est très très inventif, et voyez-le quoi, tout simplement.
Et pour ma part, je vous recommande. Il y a pas mal de films qui sortent maintenant et que j'ai vu avant en festival, justement. J'ai vu The Substance, que je vous recommande fortement. Donc voilà. Mais après, faites gaffe, parce que j'ai vu que sur Internet, il y a vraiment d'ici à ce qu'ils sortent là, je pense que l'épisode sortira à la sortie de The Substance. Mais il y a plein de spoilers et d'extraits qui volent sur Internet. Allez le voir. Je pense que c'est un bon film de cinéma.
Il sort le tout début de novembre, hein, c'est ça
Je crois, il sort toute fin d'octobre.
Toute fin d'octobre, ouais. D'accord, ok. Et en même temps qu'Hundreds of Beaver, du coup, voilà, pas le même support, mais la même passion.
Et dans le même genre aussi, il y a eu The Apprentice. Est-ce que tu as entendu parler de The Apprentice?
Oui, c'est la biographie romancée sur la jeunesse de Trump. Donald Trump.
Ouais, dans les années 70 et 80. Et tu sais quoi? Moi j'ai trouvé ça super, parce que déjà les comédiens sont au-delà du Sebastian Stan, qui aurait pu nous dire que Winter Soldier serait un comédien comme ça, et qu'il il fait vraiment des choix assez intéressants de filmo, quoi. C'est vraiment le gars qui s'en sort le mieux de toute cette génération de, voilà, je dis ça et il va jouer dans Thunderbolts, donc j'en sais rien, mais
il a besoin de payer ses factures aussi, hein.
Oui, bien sûr. Et puis tu sais quoi, tu dis pas non à Marvel quand ils te font des contrats, j'imagine. Mais franchement, il fait des trucs vraiment très intéressants. Je sais pas si tu te souviens, il avait joué dans Fresh, qui est un film, un thriller.
Ouais, tout à fait, Fresh, qui est vraiment chouette, ouais.
Mais qui est, je crois, sur Disney, il est sur Disney Plus en plus.
Ouais, c'est un film direct ou Disney Plus. Ouais. Mais alors dit comme ça, ça donne pas envie, mais en fait, Fresh, c'est vraiment chouette, ouais.
Et voilà, Fresh, ça vaut le coup de le voir sans rien savoir. Et donc là, il joue Trump, mais il joue sans se forcer. Et en plus, celui qui lui donne, celui qui joue son mentor et en même temps qui est vraiment un acteur, on va dire, fanatisé, parce que c'est vraiment c'est l'acteur studio.
Alors, disons-le tout de suite, il a la réputation d'être un sacré connard sur les plateaux.
Oui, voilà. parce que il est, c'est vraiment
le méthode acteur.
C'est le méthode acteur absolu, c'est Jeremy Strong. Mais tu sais quoi, quand tu vois le résultat à l'écran, je comprends. Je comprends qu'il est vraiment super. Il est vraiment. Alors après, il paraît que une fois qu'il quitte le plateau et qu'il quitte son rôle, il paraît qu'il est, il est ok. Hein. J'ai lu des articles dessus. Il a l'air très malin. Mais c'est vrai que sur les plateaux, il a l'air d'un sacré connard. Et il joue le rôle du mentor de Trump. Et il y a une ou deux scènes choc, dont une avec Maria Bakalova que vous avez sans doute vue dans le formidable. J'ai un trou de mémoire. Dans le formidable Borat 2.
Ah oui, tout à fait. Ben oui, elle joue la fille de
Elle joue
Borat.
la fille de Borat. Et elle est vraiment très
Ouais.
très bonne actrice. Hein. Elle est fabuleuse. Bref, et ça se regarde comme un épisode un peu de Succession Origins. Parce que c'est les mêmes endroits et en même temps, tu sais, ça parle quand même de Rupert Murdoch à un moment. Et puis, tu sais, il y a un moment forcément où tu vas voir Jeremy Strong triste dans la rue tout seul. Et là. Envoie les violons, c'est tom tom. J'entends la musique de Succession dans ma tête. Voilà. Et la photo est très très bien, vraiment. C'est un bon biopic d'époque, quoi.
Et en plus, enfin, moi, anecdote complètement, j'ai découvert que le titre du film renvoie évidemment à la relation entre Donald Trump et son mentor, mais en fait, j'ai découvert que Trump avait été présentateur d'une émission éponyme en fait
Oui.
aux États-Unis, et j'avais complètement zappé cet arc de carrière, parce que chez nous, c'est un truc qui n'était pas du tout diffusé, mais qui en fait lui a servi à lui donner son image publique, de sa forme finale de son image publique, quoi.
Et alors, évidemment, Trump a tout fait pour faire interdire le film, ou du moins ne pas le faire sortir avant les élections. C'est là où on va voir que, véritablement, le cinéma ne sert à rien à changer la vie. Hein. Non, mais c'est vrai, hein, c'est genre, on
Oui,
va
bah
bien
oui,
voir s'il se
désolé.
fait élire, ça servira à rien. Et de voir un mec en train de se faire. Parce que c'est pas les liposuctions et la chirurgie plastique. Je suis sûr que lui, il est dégoûté qu'on monte la liposuction et la chirurgie plastique, mais en fait, il y a une scène de viol aussi dans le film, donc.
Oui, en fait, oui, mais ça, il voit pas le problème.
Ouais, je
C'est pour
pense
ça.
que.
Il appelle ça de l'amour, lui.
Écoute, voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir suivis. On remercie de donner sur patreon.com/RPU. Bravo Stéphane, merci. Merci pour tout ce que
Bah,
vous avez fait.
c'est ça. Merci, bravo. Bah, écoute, oui,
C'est de
merci,
l'argent
de
qui ne
rien.
sera pas reversé au comité de soutien Trump. Ça,
Voilà, ni au.
on peut s'engager.
Ni au comité de soutien de Bruno Retailleau, voilà.
Alors, ni,
Ça.
ni, ni, en général, les Bruno Le Maire, Bruno Retailleau, tu sais, ils viennent en.
Ah, Bruno Solo quand même, bon,
Ah, c'est vrai,
on a
Bruno
parlé de
Solo,
Bruno Solo,
on
voilà.
a évoqué. Donc, nous, on aime Bruno Solo. On vous embrasse très fort et puis on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao!
Ciao à tous, merci. Pour mettre dans le mood, j'ai revu le premier Beetlejuice hier. Du coup,
Il est ok valable, non?
ouais, il est cool, ouais. Après, bon, le film a pas beaucoup de sens, mais
il n'y a pas beaucoup de sens. Et puis, en fait, si tu regardes narrativement, en fait,
oui, c'est voilà, ça.
genre, en fait, on est là que pour un mec qui va avoir 10 minutes.
C'est ça,
Allez, voilà.
exactement, ouais.
On le voit vraiment 10 minutes, hein.
On le voit vraiment très très peu, mais bon, c'est non, mais visuellement, il y a des trucs qui sont quand même super et tout, donc. Voilà, ça le fait, mais voilà, c'est pas non plus.
Ah bah, si tu veux, t'as Marcelo Millot.
Oh là, oui, alors, pouf, eh ben, pouf, voilà.
Tu sais ce que c'est?
Oui, je sais, c'est la biographie romancée de Mastroianni avec sa fille qui l'incarne.
Sa fille qui l'incarne, et c'est voilà, c'est réalisé par Christophe Honoré.
Ouais, donc voilà.
Honnêtement, je pense que ça s'appelle grave digging à ce niveau-là. Mais je pense qu'ils ont tous dû penser, ah, c'est un bel hommage.
Oui, alors j'en doute pas, hein, mais voilà,
Ouais,
écoute.
ils ont dû se hyper entre eux. Ah ouais, c'est un bel hommage. Non.
Une production RPU.